Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir au studio Marie-Célie Agnan, écrivaine québécoise d'origine haïtienne. Madame Agnan est devenue poète officielle du Parlement canadien. Le 1er avril, elle a été couronnée auteure de l'année au Gala Dynastie qui reconnaît des personnalités des communautés noires. Donc, une belle année en perspective pour Madame Agnan. Bonjour Marie-Céline Agnan.
Bonjour Marjorie, comment allez-vous?
Très très bien, puis merci, bienvenue à Vivement les femmes, puis merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, Madame Agnan, déjà en début d'émission, j'ai une surprise pour vous.
Ah vraiment, j'adore les surprises.
Alors voilà, nous avons demandé à Marie-Madeleine Raoul, directrice des éditions de La Pleine Lune, de vous présenter.
Oh mon Dieu!
Les éditions de La Pleine Lune ont publié le recueil de poésie « Femmes des terres brûlées » qui a gagné un prix littéraire prestigieux et le recueil Nouvelles d'ici, d'ailleurs et de là-bas. Donc tout de suite, Marie-Madeleine Raoul, bonjour!
Bonjour!
Puis merci d'avoir gardé le secret!
Ça me fait plaisir!
Alors, voilà. Donc, je vais vous demander de présenter Marie-Célie Agnan et puis dites-nous aussi dans quelles circonstances vous l'avez rencontrée.
Alors, bonjour à Marie-Célie.
Bonjour Marie-Madeleine. Mon Dieu, quelle surprise. Je t'ai parlé il n'y a pas longtemps, enfin, à plusieurs reprises cette dernière semaine.
Oui.
Bon, enfin, bref. Je suis contente de t'entendre.
Merci. Nous nous sommes rencontrés, Marie-Célie, il y a de nombreuses années dans les salons du livre. J'ai toujours admiré tes écrits et tes interventions. Depuis plus de 10 ans maintenant, tu fais partie des autrices de La Pleine Lune et la maison d'édition est très honorée de t'avoir. Tu es, je dirais, c'est ta liberté de penser, ton authenticité, ta franchise, ton courage, ta grande sagesse et ton humanisme méritent toute notre admiration. Tu es une grande dame de notre littérature et une grande amie. À la fois poète, nouvelliste et romancière, Marie-Célie Agnan écrit avec la justesse et l'intelligence du cœur pour dénoncer les injustices, les vies brisées des mères et des filles, les souffrances et les tourments des exploités. Elle pose un regard lucide et plein de compassion sur la condition humaine, l'exclusion, la misère, le désarroi, la trahison, les guerres. Ses écrits ébranlent bien des préjugés. Je dirais que toute jeune, Marie-Célie a dû quitter Haïti et s'est installée au Québec où elle vit depuis. Elle a perdu le territoire de son enfance et comme elle le dit, la liberté de penser et de créer est devenue son territoire. À travers ses livres, elle nous montre qu'on peut être d'ici, d'ailleurs ou de là-bas, mais que notre humanité commune est universelle et surpasse nos différences. Et cette dimension de notre appartenance à une humanité commune universelle me paraît d'une importance vitale, surtout à notre époque où on classe et divise trop souvent les êtres humains en catégories. Mmh. Alors, je salue Marie-Célie Agnan et qui est tout mon respect, mon admiration et mon amitié.
Mon Dieu, c'est très émouvant. Enfin, j'apprends à accepter, vous voyez, ce genre de choses. C'est assez difficile, malgré toutes ces années, d'entendre parler de moi. Mais je te remercie, Marie-Madeleine. Enfin, tu sais combien j'ai moi aussi de l'admiration pour toi, toutes les luttes que tu as menées depuis plus de 40 ans où tu es à la barre de cette maison d'édition. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Alors, quelle belle introduction. Donc, Marie-Madeleine, vous êtes directrice des éditions de La Pleine Lune. Donc, lorsque vous avez reçu les épreuves des livres que vous avez publiés, qu'est-ce qui vous a interpellée? Pourquoi vous avez dit oui?
Je dirais que c'est en fait la langue de Marie-Célie est superbe.
Mm-hmm.
Elle résonne en nous comme Françoise Nodillon qui l'écrivait dans le fond dans sa postface du livre Femme des terres brûlées.
Oui.
Sa voix, sa langue, sa poésie résonne en nous vraiment comme un bruissement sourd, une rumeur que nous croyons taire à jamais. Elle est, enfin, elle prenant un extrait de son poème, mm-hmm. Dans Femmes des terres brûlées, toujours, Marie-Célie Agnan disait « Cette chape de plomb sur les paupières du monde,
mm-hmm.
ce que dans le silence et par le silence nous ignorons. Mm-hmm. » Donc, son écriture, c'est d'enlever cette chape de plomb, d'ouvrir les yeux. Donc, c'est ce côté, son grand humanisme et aussi toute la musique de sa langue.
Mm-hmm.
Je pense qu'on ne peut pas, ne pas être, ébranlé, oui.
Oui.
Parce que c'est vraiment une authenticité dans les propos.
Mm-hmm.
Et vraiment, c'est une poésie très forte. D'ailleurs, le prix Alain Grandbois lui a été décerné qui signale la qualité, la grande qualité de son écriture.
Mm-hmm. Oui. Puis pour terminer, Marie-Madeleine, qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent pour motiver une lecture d'un livre de Marie-Célie Agnan?
Je vais peut-être me répéter, mais ce que je dirais, c'est comment elle nous montre qu'on peut être d'ici, d'ailleurs ou de là-bas et que on a une humanité commune, universelle.
Oui.
Toi, blanc, noir ou autre, c'est cette quête d'être ensemble et de lutter, de ne pas admettre aucune injustice.
Oui.
Rester les yeux ouverts.
Mm-hmm.
Et c'est ce qu'elle nous apprend et ses livres sont vraiment des ouvertures sur toutes les injustices qu'on essaye d'ignorer le plus souvent.
D'accord. Mais merci beaucoup, Marie-Madeleine Raoul, directrice des éditions de La Pleine Lune. Donc, une riche introduction de Marie-Célie Agnan qui nous donne le goût de la suivre et de la lire. Alors, Marie-Célie, on laisse aller Marie-Madeleine. Avez-vous un petit mot à lui dire?
Eh bien, c'est quelque chose que je lui ai déjà dit. Elle est quelqu'un de très précieux pour moi.
Oui.
Je te remercie encore une fois, Marie-Madeleine. C'est plus qu'une éditrice maintenant, c'est quelqu'un que j'aime.
Oui. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Merci. Après cette belle introduction de Marie-Célie Agnan, donc je poursuis avec elle. Donc Marie-Célie Agnan, écrivaine québécoise d'origine haïtienne et poète officielle du Parlement canadien. Marie-Célie, alors vous revenez de vos émotions, une belle surprise. Hein, quand...
En effet, oui, c'est très émouvant. C'est, comme je te disais, j'ai j'ai toujours ce mal de... Il faut apprendre à accepter ce genre de truc. Il faut apprendre et... C'est difficile. C'est difficile de se retrouver. J'ai l'impression des fois d'être dédoublée. Il y a quelqu'un dont on parle, puis il y a moi.
C'est ça.
C'est un peu perturbant, quoi. Voilà.
Oui, je comprends.
Bon,
Accepter ce que les autres voient de nous et que peut-être parfois on a de la difficulté à voir.
Oui, parce que je fais ce métier, mais il arrive des... Il y a des publics face auxquels je me sens très, très bien, par exemple. Oui. Le public des jeunes, des enfants, il y a une connexion qui se fait de manière très, très naturelle. Mais j'ai toujours été une personne assez privée, assez timide aussi, quelque part, vous voyez. Qui se protège, en quelque sorte.
Je comprends.
Et ça ne paraît pas, parce que quand je me sens à l'aise avec quelqu'un, mais je suis très ouverte. Mais autrement, alors voilà, je pense que c'est ce qui arrive.
C'est ça.
Oui.
Donc, maintenant, j'aimerais ça que vous nous parliez du chemin qui vous a conduite au Québec, donc du parcours migratoire.
Bon, c'est un parcours migratoire, c'est-à-dire c'est un chemin qui a débuté, pas parce que moi, Marie-Célie, j'avais... fait le choix de quitter Haïti, mais c'était à l'époque une décision familiale. J'étais quand même jeune, c'est l'année de mes... J'avais 16 ans.
Oui, oui.
Vous voyez, c'était une décision de la famille, quoi. Même si moi, en quelque sorte, j'y avais participé, je voulais partir. Parce qu'à 16 ans, on a quand même une idée peut-être pas très nette de ce qui se passe autour de nous, mais on comprend ce que c'est que la peur. Surtout quand on voit que les adultes ont peur. On ne comprend pas tout à fait ce qu'est la répression, mais on sent les choses, on sent que tout le monde a peur. Et je me rappelle à l'époque où j'ai demandé à... C'est ma marraine qui vivait au Québec, qui était une des premières infirmières à avoir émigré. Elle est arrivée ici dans les années 60.
Ah oui.
Et on était très proches, elle m'a en quelque sorte élevée. Vous savez comment sont en Haïti les familles, on vit de manière très très proche. Elle n'avait pas d'enfant, j'étais son enfant gâté en quelque sorte. Et j'ai voulu venir, c'est-à-dire on sentait cette lourdeur de la peur. Et je lui ai demandé de venir, entre autres parce qu'à l'époque on parlait beaucoup d'un examen préalable aux examens de la rhéto et de la philo qu'on a en Haïti, les examens, très sérieux. Là, Et je me disais à l'époque, ça va être encore les enfants de ces duvalieristes et de ces tontons macoutes qui vont réussir ces examens-là. Je ne veux pas être soumise à ce genre de truc. Et voilà, elle a accepté, et je suis venue vivre avec elle très tôt.
Très tôt. Et ça... Ça a bien été, l'intégration et tout ça?
Quand même, oui, C'est-à-dire, ce n'était pas une intégration très difficile. Elle m'avait, en quelque sorte, protégée quand même dans cette intégration. Je me rappelle, cette dernière année du secondaire, je suis allée au collège français. À l'époque, beaucoup de jeunes les parents pensaient que c'était beaucoup plus facile pour nous. Dernièrement, j'ai eu toute une émotion, justement, quand une petite école qui utilise les locaux du collège français, qui s'appelle l'école des premières lettres, m'a demandé de venir faire un atelier de compte avec les enfants. Et pendant deux reprises, je suis allée sur les lieux. Et voilà, j'ai terminé cette année de secondaire dans un milieu quand même assez protégé. Et j'ai ensuite été au cégep. C'est là, je peux dire, que les... Je ne dirais pas les difficultés, mais quand même se prendre en main. Ce que je voulais faire, c'était, les lettres, c'est ce que j'ai fait, mais je ne peux pas dire que ça a été facile.
Je comprends.
Vous voyez, quand on doit se prendre en main, après l'université, je voulais aller en théâtre et j'ai senti déjà à cette époque que c'était un milieu... très, très difficile. Je me rappelle, j'étais à l'université à Concordia et j'avais un professeur, je peux le dire aujourd'hui, qui avait des réactions et des paroles tellement discriminatoires et racistes que je pense que ça, ça, j'ai bifurqué.
Ok, je vois.
À l'époque, je me suis dit, c'est un milieu où je... C'est une lutte que je ne vais pas pouvoir gagner. Et j'ai laissé tomber, même si j'avais pris des cours d'écriture théâtrale. J'avais même écrit une pièce qui l'avait choquée en quelque sorte, parce que... Enfin bref, et j'ai bifurqué vers les lettres, et puis voilà, l'enseignement. Normalement, j'ai une formation d'enseignement en français, langue seconde, et puis bon, mais j'ai fait autre chose pour pouvoir être libre, en quelque sorte.
Le goût de l'écriture, est-ce que ça s'est développé ici, ou vous aviez déjà avant 16 ans
Bien avant 16 ans. C'est-à-dire, les personnes qui étaient à l'école avec moi ne sont pas étonnées de voir que je, que je fais ce métier. C'est tout ce qui m'intéressait, lire et écrire. Et bien sûr, les choses qui me ramenaient à l'écriture, qui me permettaient de rêver. Comme je me rappelle comment j'aimais beaucoup la géographie, l'histoire. Tout ça, c'était comme des prémices, vous voyez. Mais je n'étais pas... Les sciences et toutes ces choses-là ne m'intéressaient pas beaucoup, mais j'ai commencé à écrire déjà à l'adolescence et à lire, à consommer de la littérature en quelque sorte. Par chance, j'avais la chance d'être dans un milieu où les gens lisaient, où il y avait des livres. Et puis, voilà.
Alors ça vous a amené aussi, comme on l'a dit précédemment, vous avez enseigné le français, vous avez été aussi interprète, et puis... Quelle trace ces deux professions ont-elles laissé dans votre parcours?
Beaucoup d'empreintes.
Oui.
Dans le sens où j'ai commencé à travailler comme interprète dans le milieu social, avec les immigrants de l'Amérique centrale, des Haïtiens également. Et je sentais en quelque sorte que le désir de la militance, le goût de la militance... se confondait avec le gagne-pain en quelque sorte. J'aimais beaucoup cette idée d'être utile, d'aider les gens, de servir de passerelle en quelque sorte entre la société d'accueil et des nouveaux arrivants. Et en même temps, ça m'a permis une grande connaissance de l'Amérique centrale, parce que comme je travaillais beaucoup en espagnol, une langue que je maîtrise. À cette époque, j'ai débuté dans cette voie déjà dans les années 80. C'était une époque où l'Amérique centrale vivait des choses terribles, comme cette politique de terre brûlée où les gens du Salvador, du Guatemala, les assauts, si je peux dire, des régimes dictatoriaux. De toute cette période. Et ils arrivaient, beaucoup de réfugiés arrivaient, il y a les années 70 aussi, la fin des années 70, où arrivaient les Chiliens. J'étais très, très proche aussi de cette communauté. Et je peux dire que tout mon travail porte les traces de toutes ces années, vous voyez. Non seulement du contact avec les gens, mais de cette connaissance de ces lieux auxquels je sens que j'appartiens. Parce que je dis souvent que je suis née en Haïti, mais je suis de toute cette Caraïbe, de toute cette Amérique centrale, j'appartiens à ces lieux également. L'identité pour moi n'a rien à voir avec ce territoire particulier où je suis née, mais plutôt à cette conception du monde tel qu'il est séparé. Je suis de ce monde des gens opprimés qui ont dû quitter leur pays. Je me retrouve dans le guatémaltèque, je me retrouve dans la personne du Salvador, je me retrouve dans tous ces gens qui souffrent, qu'ils soient de l'Afrique, qu'ils soient de partout, vous voyez, c'est mon identité.
Oui. toujours en compagnie de Marie-Célie Agnan, écrivaine québécoise d'origine haïtienne et poète officielle du Parlement canadien. Marie-Célie, les parcours de femmes sont bien présents dans votre œuvre, entre autres dans votre roman « La dot de Sarah », qui vient d'être même réédité en version bilingue, hein, français-créole. Pourquoi est-ce important pour vous de disséquer la condition des femmes?
C'est-à-dire, je ne peux pas concevoir mon existence sans parler des injustices dont les femmes ont toujours été victimes, enfin, depuis qu'elles existent, quoi. Le monde a été bâti sur cette injustice. Ouais. Le monde est érigé sur des injustices. Le patriarcat, la structure même de ces sociétés, vous voyez, c'est pour moi, le sort des femmes est lié au sort de tous ces gens qui sont opprimés. C'est une sorte d'oppression que les femmes ont toujours vécue, que je dénonce dans mes œuvres et à la suite d'autres femmes qui l'ont fait avant moi, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau.
Tout à fait.
Vous voyez, et quand on regarde notre humanité, on regarde ce monde, on se rend compte que les femmes ont beau se battre, tout comme les peuples ont beau se battre, on revient toujours à la case départ, en quelque sorte. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, nous soyons dans des sociétés où il y a tant de féminicides?
En effet.
Ouais. Vous voyez, alors c'est une... Je dis souvent que le féminisme, c'est la nécessité de rester les yeux ouverts. C'est la nécessité d'être vigilant.
Oui.
Vous voyez, c'est une injustice parmi tant d'autres. Et je ne peux faire autrement que de parler de cette... Enfin, d'une injustice parmi les autres.
Parmi les autres,
oui. Et c'est nécessaire. C'est plus que nécessaire. Parce que nous avons besoin de transmettre cette vision... La vision de cette égalité à nos filles, à nos petites filles.
Oui.
Parce que les luttes que nous avons menées il y a 40 ans, 50 ans, elles vont devoir continuer à mener ces luttes.
Oui.
Alors il faut la transmission.
Oui. Comme vous dites, garder les yeux ouverts.
Garder les yeux ouverts.
C'est ce que vous voulez transmettre.
Absolument. Cette nécessité.
Oui, aux générations.
Oui.
Vous avez eu de nouvelles fonctions. Poète officiel du Parlement canadien. Qu'est-ce que c'est, au juste?
Au fait, c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays, en Angleterre, je crois, aux États-Unis également. Et ici, ça fait une vingtaine d'années que le Parlement, plutôt la bibliothèque du Parlement, accueille un poète dont la fonction est une sorte d'accompagnement, je pourrais dire occasionnel, pour répondre à une demande qu'on lui fera d'écrire un texte pour une occasion particulière, donner une place à la poésie dans un environnement où on n'est pas habitué à entendre de la poésie, ou encore suggérer certains livres qui peuvent être inscrit à cette bibliothèque du Parlement qui est très riche, mais qui contient surtout des livres sur ce qui concerne la politique.
Exactement.
Mais il y a quand même un espace pour accueillir d'autres auteurs. Voilà, c'est la fonction de ce poète, vous voyez. Je trouve ça quand même intéressant que des personnes qui peut-être ne porteraient pas attention à la poésie, soit intéressé par la poésie, qui n'est pas quelque chose de banal, dans le sens où il y a un poète espagnol qui dit que la poésie, c'est une arme pour le futur. Elle peut remplir tant de rôles, et elle a déjà rempli tant de rôles, la poésie. Un des poètes qui m'a le plus inspiré dans mon parcours, c'est García Lorca. Federico García Lorca, qui est non seulement poète, mais un homme de théâtre, mais qui n'est pas un poète banal, qui est un poète qui a payé de sa vie son engagement social, vous voyez. Et c'est dans ce sens que je pense que le Parlement accueille quelqu'un qui peut faire une lecture de poésie.
De poésie, puis... Je dirais même, parce que j'avais envie de vous poser la question, est-ce que vous comptez l'enrichir d'œuvres sur la diversité, de la diversité, je veux dire? Est-ce que le rôle va jusque-là?
Oui, c'est-à-dire, oui? Je okay. peux les proposer. Je ne sais mm-hmm. pas comment ils seront accueillis. Mm-hmm. Je peux inviter des poètes, vous oui, voyez, oui. à aller faire une lecture. Okay. C'est une manière de comment dire, de les introduire en ce lieu. Mm-hmm. Je peux décider de faire de mettre de la poésie en ligne.
En ligne, oui.
Mais moi, j'aimerais plutôt, pendant ces 2 années, parce mm-hmm. que c'est un mandat pour 2 ans, inciter des jeunes à écrire de la poésie.
Oui.
Inciter des jeunes à donner leur... à dire ce qu'ils pensent du monde dans lequel nous vivons.
Mm-hmm.
Et proposer à ces gens du Parlement mm-hmm. d'écouter les jeunes. Vous voyez?
Oui.
Alors, c'est ce que je voudrais faire. Dans ce sens, je voudrais prendre contact avec des professeurs que je connais déjà dans les classes des jeunes, des enfants entre 9 et 12 ans,
oui.
par exemple.
Oui, oui, je vois.
Et écouter ces jeunes, leur vision du monde.
Mm-hmm.
C'est ce que je voudrais pouvoir réaliser.
Réaliser au bout de
voilà.
2 ans.
Parce qu'il faut oui. choisir également.
Oui,
on ne peut pas tout faire.
C'est quand même 2 ans, c'est quand même court.
C'est quand même très court.
Mm-hmm.
C'est quand même très court.
Est-ce que ça demande d'avoir un bureau à Ottawa? Ou
ah
ça
non,
se
pas
fait
du tout.
À distance?
Pas du tout. Je oui. ne crois pas que j'aurais accepté la nomination s'il fallait que je bouge, que j'ai un bureau, que je me sente...
Je comprends.
Non, non, c'est quelque chose qui se fait en toute liberté.
Mm-hmm.
Et puis, on n'a aucune obligation. Ça a été très clair, vous voyez. C'est-à-dire,
okay.
on peut toujours nous demander, Madame Agnan, voilà, il y a telle occasion, est-ce que vous vous sentez capable d'écrire un texte pour nous?
Mm-hmm.
Et c'est à moi de dire si oui, je peux, sinon je ne peux pas. Il n'y a pas d'obligation,
ah,
absolument
d'accord.
aucune.
Okay,
au fait, c'est plutôt une nomination, c'est plutôt une distinction,
une
quelque
distinction,
chose.
Je
voilà,
comprends.
Voilà.
Oh,
il y a
oui.
pas de, je ne suis pas un employé du Parlement.
Oui.
Vous okay, voyez, j'ai accepté avec beaucoup de gratitude,
oui.
c'est-à-dire cette fenêtre qui s'est ouverte sur mon travail,
mm-hmm.
mais je ne suis pas employée par le Parlement, non, c'est une gracieuseté,
oui.
je pourrais dire. Voilà.
Vous écoutez Vivement les femmes avec Marjorie Théodore.
Au micro avec Marie-Célie Agnan, écrivaine québécoise d'origine haïtienne et poète officielle du Parlement canadien. Alors Marie-Célie, vous avez été désignée auteure de l'année au récent Gala Dynastie. D'ailleurs, j'y étais, j'ai vu votre vidéo de remerciement, mais j'ai envie de vous demander comment avez-vous reçu ce prix?
Vous savez, ce qui me touche dans l'octroi de ce prix, c'est que les gens qui sont, comment dire, les auteurs de cette manifestation, selon moi, sont des jeunes.
Oui.
Des jeunes de cette communauté qui ont grandi ici, qui sont arrivés très jeunes, qui sont nés ici. Et ils m'avaient invité à une... Je pense pas au gala. Au gala, j'ai pas pu y être parce
oui.
que j'étais absente, la remise du prix, mais à une autre manifestation avant la remise des prix.
Mm-hmm.
Et j'ai trouvé que c'était une génération de jeunes qui sont tellement à l'aise dans leur peau. Ils étaient là. Ils
oui.
étaient là, présents. Ils sont dans leur élément. Ils sont chez eux. Ils ne demandent pas la permission.
Mm-hmm.
Et j'ai beaucoup d'admiration pour eux. J'aime cette liberté qu'ils se donnent, vous voyez,
oui, oui.
de ne pas demander la permission de faire ce qu'ils font.
C'est vrai, oui.
Et puis, dans ce sens, je les encourage et puis j'accepte avec beaucoup de gratitude ce regard qu'ils ont sur mon parcours,
mm-hmm.
sur mon travail. Et puis, voilà, je les remercie d'être ce qu'ils sont,
oui,
et de vouloir aussi aller plus haut, aller plus loin.
Oui, oui.
C'est comme ça que je le perçois.
Oui, tout à fait.
Oui.
Puis ça permet aussi, ce sont des jeunes bien sûr qui sont autour de cette belle idée, organisation et tout, mais ça permet aussi de jeter un regard sur le parcours, le défrichage qui s'est fait aussi dans divers domaines.
Oui, parce que j'ai compris avec le regard des jeunes aujourd'hui, enfin non seulement ces jeunes d'origine haïtienne, beaucoup, mais il y en a d'autres aussi.
Oui.
Mais d'autres jeunes qui sont dans la communauté, parmi les jeunes auteurs, autrices, mm-hmm, qui écrivent et qui observent mon travail. C'est-à-dire, je n'avais jamais pris conscience de ça que ces dernières années.
Ouais.
Et je me rends compte que c'est important. On ne vient pas de nulle part.
Tout à fait.
Moi, j'ai aussi eu des modèles. Et c'est dans ce sens-là que je trouve ça important,
oui,
que j'ai un autre regard sur mon travail. Ce n'est plus quelque chose qui me concerne uniquement moi-même,
mm-hmm,
mais il y a aussi le regard de ces jeunes,
oui,
qui, pour moi, est important.
Mm-hmm.
L'espoir que ça peut susciter chez eux, le courage que ça peut leur donner, c'est maintenant que je le comprends vraiment dans,
oui,
le regard de ces jeunes qui ont observé ma trajectoire,
oui,
et puis qui se sentent inspirés,
mm-hmm,
en quelque sorte par... parce que ça a demandé, ah, quand même du courage, ça a demandé quand même du travail, ça a demandé beaucoup de choses dont ils s'inspirent sans doute.
Exactement.
Et puis voilà.
Ouais, ouais. Oui. Vos écrits ont dépassé les frontières, on n'est pas seulement au Québec. Quelles sont les frontières que vous avez franchies? Vos livres sont traduits, est-ce qu'ils sont traduits dans plusieurs langues?
Oui.
Mm-hmm.
Je dois vous dire, Marjorie, je crois que c'est surtout avec cette chance que j'ai eue d'avoir franchi,
oui,
les barrières, les frontières, comme vous dites,
mm-hmm,
que mon travail a pu se diffuser,
oui,
et revenir au Québec en quelque sorte.
Oui.
Comme quoi j'ai dû sortir d'ici pour revenir,
mm-hmm, mm-hmm,
parce que j'ai été dans tant d'endroits comme le Japon, la Finlande, la Suède, l'Autriche, un peu partout. Et je me rappelle au tout début de certains professeurs, et je dois expliquer comment est-ce que ça,
oui,
a pu se produire.
Oui.
C'est surtout parce que mes textes ont commencé à être lus dans les départements d'études francophones et françaises aussi,
oui,
des universités,
mm-hmm,
parce que c'est ce qu'on appelle c'est ce que j'appelle les espaces littéraires.
Oui.
Parce qu'il y a différents espaces littéraires. Il y a des espaces où on voit des gens qui sont toujours dans la télévision ici, qui,
mm-hmm,
sont toujours dans les journaux, qui sont ceux dont on parle, ceux dont on...
Mm-hmm.
Qui sont, enfin, je ne sais pas, les vedettes, les,
oui,
les seuls. Mais il y a d'autres espaces littéraires dans lesquels on peut se développer.
Tout à fait.
Et ça, j'ai fini par le comprendre.
Oui, oui.
Les professeurs de français, les professeurs de littérature, je leur dois beaucoup,
mm-hmm,
dans le sens où ils se sont très tôt intéressés à mon travail.
Oui.
Dès l'apparition de ce premier roman, La dot de Sarah,
oui,
j'ai,
oui,
commencé à voyager. Je me rappelle la première fois où on m'a invité à faire une tournée des universités aux États-Unis, j'ai fait 12 présentations dans l'espace,
oh,
dans l'espace d'une quinzaine de jours. Et j'étais accompagnée par le délégué de la délégation du Québec,
mm-hmm,
au cours de c'était une tournée dans le Midwest américain. À la fin, je lui ai dit, ne me dites pas où je vais, dites-moi à quelle heure je dois être prête, je vais me préparer.
Oui, oui.
Et puis, bon, comme j'aime le contact avec les jeunes qui, vous voyez, et ce sont de très jeunes étudiants dans les universités. Et depuis lors, mon travail ne s'est jamais arrêté,
ouais,
dans ce domaine, mm-hmm, dans universitaire.
Ben, ouais.
Et dans ce que j'appelle ces espaces littéraires, il y a tout ce qu'on appelle les colloques organisée par les universités où j'ai toujours été présente, et ses professeurs aussi. Et c'est ce qui a pu faire voyager mon travail, depuis plus de 20 ans.
Marie-Céline, je vous écoute, et puis ce n'est pas la première fois que j'entends ça, hein, qu'il faut aller à l'extérieur avant qu'on soit reconnu au Québec pour, même je dirais, divers, au niveau culturel, que ce soit dans l'humour, dans les pièces de théâtre ou dans les livres. Ça semble être un passage obligé.
Enfin, je ne sais trop. Pour moi, ça, c'est encore un peu... Je ne dirais pas un choc, mais un questionnement.
Oui.
Un questionnement. Je dois vous dire, Marjorie, je suis reconnue pour ma franchise, qui souvent dérange. Je suis arrivée sur l'échiquier littéraire ici, au milieu des années 90, à un moment où très peu de femmes venues d'ailleurs prenait la plume pour décider qu'elles sont écrivaines. Et je pense que pendant cette période, pendant une certaine période, j'ai vécu un peu comme quelqu'un dont on s'interrogea toujours sur ma présence dans certains lieux. C'est comme, mais qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a changé avec une nouvelle génération d'écrivaines. Et d'écrivains qui m'accueillent, mais de manière très... qui ont l'habitude de m'entendre et peut-être qui ont lu de mes textes aussi dans les universités ou au cégep, je ne sais trop. Mais l'attitude a beaucoup changé. Alors que dans les années 90, il y avait cette génération de personnes qui se sentaient peut-être en compétition avec moi ou qui n'étaient pas toujours très accueillants. Mais voilà, j'ai su comprendre... à un certain moment, comment le jeu, vous voyez, comment ça se passait. Et puis bon, j'ai fait ma route dans une espèce de tranquillité, sans essayer trop de m'imposer, ni de chercher à me faire accepter.
Je comprends.
Et puis voilà, dans la tranquillité, j'appelle ça une sorte de résilience. Résilience, mais aussi... une sorte de force, parce que ça m'a rendue très, très forte. Et voilà, le chemin s'est fait de lui-même.
Oui, un beau chemin vers le succès. Marie-Céline, vous signez la préface du collectif de personnes marginalisées, Peace, Peste et Puissance, préface dans laquelle il ressort votre volonté de lutter contre l'invisibilité. À qui précisément voulez-vous donner une rampe d'éclairage?
Une rampe d'éclairage, au fait, ces jeunes femmes, ces jeunes personnes, parce qu'elles sont, je ne les connais pas toutes, m'ont expliqué qu'il y a un livre qui précède celui-là, dans lequel aucune femme venue d'ailleurs et qui écrit n'était présente. J'ai trouvé ça un peu difficile pour elle, vous voyez. Et puis elle me disait que j'ai lu finalement une petite préface qui avait été rédigée par les gens qui ont publié ce livre, dans laquelle elle s'excusait auprès des personnes racisées et autres, comme quoi on n'avait pas su les trouver pour leur demander de participer dans des textes sur le féminisme, en quelque sorte. Et c'est difficile à comprendre, à concevoir, comme quoi il faut toujours reprendre les mêmes luttes, en quelque sorte. Et quand elles m'ont demandé de signer cette préface, je me suis dit que oui, je vais la signer, je vais l'écrire et je vais être le plus clair que possible. Il faut continuer cette lutte contre l'invisibilisation. Qu'est-ce que c'est l'invisibilisation? Tout à l'heure, je vous ai parlé des réticences que j'ai senties dans certains milieux lorsque j'ai commencé. Par exemple, une fois, j'ai été invitée par par un groupe d'écrivains, écrivains et écrivaines, pour un colloque. Au cours de cette manifestation, j'avais préparé un texte que je lisais. Pendant que je lisais, mm-hmm. il y a une poétesse qui, de manière ostentatoire,
oui.
s'est mise à faire du bruit, à parler, et tout le monde l'entendait, mm-hmm. avec un autre poète, et tant d'autres choses comme ça. Tout cela fait partie de l'invisibilisation.
Oui, oui.
Vous voyez, et je crois que c'est quelque chose qu'il aurait fallu dénoncer hier, qu'il faut dénoncer aujourd'hui, mm-hmm. et qu'il faut continuer
à dénoncer.
Mm-hmm. Il y a trop de... On vit dans un monde aujourd'hui où, quelles que soient les grandes métropoles ou les pays où nous allons, vous regardez la composition, enfin, des capitales ou oui. des villes, c'est comme au Québec, des gens de partout.
De partout, en effet.
Mais je crois que dans tous ces lieux aussi, il y a des populations qui doivent sans cesse rappeler qu'elles sont présentes. Mm-hmm. Au fait, écrire cette préface, pour moi, c'est non seulement un devoir,
oui.
parce que, bon, j'ai compris à un moment donné que c'était un chemin difficile, oui. qu'il fallait me concentrer, mm-hmm. Ne pas perdre de vue mm-hmm. que j'avais une tâche à mener.
Oui.
Parce que ce qui peut arriver dans le phénomène de l'invisibilisation, c'est une manière de vous faire taire.
Exactement.
Tout comme on a essayé de faire taire les femmes. Mm-hmm. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on essaie de silencier. Ça, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire, oui. mais que je pense qu'il devrait être là. Silencier les femmes. Mm-hmm. Je suis en train de lire actuellement un livre qui s'appelle « How to Suppress Women's Writing mm-hmm. », où depuis les années 1400, 1300, 1200, oui. je ne sais pas, les femmes ont appris à se taire, ou ont appris à trouver des mécanismes
oui.
pour déjouer l'invisibilisation.
Oui, comme l'identité, apprendre l'identité d'un homme.
Exactement,
aussi.
Exactement. Oui, oui. C'est une auteure qui s'appelle Joanna Russ
oui.
qui a écrit ce livre. Mm-hmm. Et en même temps, je lis Virginia Woolf.
Oui.
Vous voyez, mm-hmm. on ne peut pas... c'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il nous faut continuer à faire. Mm-hmm. Parce qu'il y a eu cette habitude que nous sommes absentes
oui.
ou bien que nous sommes... pas capable, et il faut toujours recommencer.
Oui.
Alors voilà, c'est dans ce sens que j'ai accepté d'écrire
cette préface
oui, oui. Et puis de...
Donc de toujours rappeler pour ne pas être oublié.
Et voilà,
oui, oui.
voilà, en quelque sorte.
Vous qui êtes mue par l'intention de transmettre, on le sent, vous avez parlé beaucoup des jeunes et tout ça, dans la jeune génération d'autrices, avez-vous une fille spirituelle, une personne?
J'en ai plusieurs.
Plusieurs?
Ah, j'en ai plusieurs et je les adore.
Ah oui?
Ah oui, 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 j'en ai plusieurs. Je ne sais pas s'il y en a plein qui émergent là, vous
oui.
voyez, avec une parole libre, une
libre.
Parole généreuse.
Ouais.
Et il y en a plusieurs qui évoluent au sein de la revue Mobius.
Mm-hmm.
Je ne sais pas si vous connaissez.
Non, pas du tout.
Ah, ouais. elle est merveilleuse, cette revue. Il y en a qui sont très, très, très jeunes
mm-hmm.
et qui ont cette parole décomplexée, cette parole... ce sont des jeunes qui ont évolué dans des milieux où leurs parents viennent de tous les pays,
oui.
vous voyez, et qui sont aussi d'origine, comme on dit, qui ont de parents québécois, de souche, comme ils se disent,
oui.
Même si c'est quelque chose que je questionne énormément.
Mm-hmm.
Il n'y a que les arbres qui soient de souche.
Oui,
vous voyez?
En effet.
Il n'y a que les arbres. Alors, oui. alors voilà. Il y en a plusieurs. Je ne sais pas si vous voulez que je dise des noms, mais elles sont nombreuses.
Comme elles sont nombreuses, ce que vous aimez particulièrement de ces écrits-là?
Leur liberté.
Leur liberté.
Leur ouverture sur le
oui,
monde.
Oui, oui.
Vous voyez? Cette grande ouverture et leur générosité
mm-hmm,
aussi.
Mm-hmm.
Parce que sans la générosité, on ne va nulle part.
Oui, moi je vois. Dans vos livres, dans votre livre, un de vos personnage, Antoine, a dit ce qui suit. Tant et aussi longtemps que j'aurai des mots pour parler de cette violence, je vais le faire. Quand vous regardez la situation sociopolitique actuelle en Haïti, quels mots vous viennent et aussi, est-ce que vous entrevoyez une embellie? Est-ce que vous entrevoyez un changement une lueur au bout du tunnel.
Vous savez, Marjorie, souvent on prend Haïti comme un modèle de désespoir.
Oui.
Moi, je refuse.
D'accord.
Haïti, c'est un pays... On a tracé le chemin dans lequel ce pays se trouve aujourd'hui.
Mm-hmm.
On oublie qu'il y a Haïti, mais il y a tant d'autres pays dont on ne parle pas. Je ne veux pas nier ce qui se passe en Haïti, mais des fois, on va diriger le regard quelque part pour éviter de voir
oui,
le projecteur, pour éviter de voir ailleurs.
Oui.
Cette souffrance que l'on voit en Haïti, elle se manifeste comme ça.
Mm-hmm.
On l'expose, parce qu'on a toujours été exposé comme Haïtien.
On a toujours été
exposé, ce pays-là.
Mm-hmm.
Et pendant qu'on regarde ce qui se passe là, on oublie. On oublie, par exemple, le Yémen, où un peuple est condamné à mourir.
Oui.
On oublie que la Libye a été détruite. Des gens qui quittent le Libye, des réfugiés libyens, on n'en connaissait pas. À un moment donné, ce pays a été démantelé.
Mm-hmm.
Les gens qui meurent dans la Manche aujourd'hui, qui meurent dans la mer, beaucoup viennent de Libye.
Mm-hmm.
Et beaucoup sont des Noirs de ce pays-là, qui vivaient tranquilles. Il y a tant de pays que l'on détruit.
Mm-hmm.
Haïti a été détruit, mais détruit pratiquement à la racine.
Mm-hmm.
Mais ce n'est pas une destruction qui a débuté aujourd'hui.
Mm-hmm.
Elle a débuté au lendemain de l'indépendance d'Haïti.
Oui.
Et moi, je me dis que le jour où le monde changera, Haïti changera aussi. Parce qu'il n'y a pas quelque chose comme un chemin qui a été tout tracé pour Haïti parce que nous sommes des Haïtiens, nous sommes comme ça, et le désespoir est notre lot.
Oui.
La destruction est notre lot. Ça a commencé au lendemain de l'indépendance. Ça a été signé que Haïti ne devrait jamais se mettre debout.
Oui.
Quand vous pensez, par exemple, au Venezuela, qui est un pays qui possède du pétrole, mais du pétrole à n'en plus finir, pourquoi est-ce que les Vénézuéliens viennent mourir dans le chemin Roxham aujourd'hui? Alors, je ne veux pas qu'on considère Haïti comme un cas d'espèce.
Mm-hmm.
Vous voyez, ça fait partie de d'un des peuples qui croupit dans la misère. Mais c'est une misère organisée, c'est une misère décidée. Parce qu'à Haïti, il y a cette grande violence, mais nous ne fabriquons pas d'armes. D'où viennent ces armes qui sont si présentes et qui contribuent à démanteler ce pays? Vous voyez, il y a des questions à se poser. Qui a intérêt dans les fabriques d'armes? Ce sont les mêmes qui gèrent le monde.
Alors,
il y a des questions à se poser.
Mm-hmm.
Oui, Haïti peut changer, mais il faudrait que le monde change. Il faudrait que la chape de plomb, comme le disait Marie-Madeleine, sur le regard du monde, change.
Change, oui. Retour avec Marie-Célie Agnan, écrivaine québécoise d'origine haïtienne et poète officielle du Parlement canadien. Marie-Célie, une belle entrevue. Merci d'être aussi généreuse. Donc, avec votre nouvelle fonction de poète du Parlement, votre prix au Gala Dynastie, votre année 2023 est partie sur les chapeaux de roue. Hein? Elle est belle. Donc, quels sont les autres projets que vous menez?
Ah, des projets, il y en a plein. Je m'apprête à partir... J'étais en Guyane française pour une résidence d'écriture. Quand je suis en résidence, je travaille énormément avec les enfants. Je les amène vers l'écriture. J'ai fait écrire des enfants qui ont publié des ouvrages.
Oh, wow.
En Guyane, en France, à Montpellier, où j'étais en résidence d'écriture à un moment donné. Et là, je pars bientôt, en fin semaine prochaine en Allemagne, à Brême, pour une résidence d'écriture à l'université de Brême, où je vais travailler aussi avec, dans le département d'études françaises, avec pour des ateliers d'écriture avec les... Parce qu'il n'y a pas meilleur moyen d'enseigner une langue que de faire écrire des contes, par exemple.
Oui.
Alors, c'est ça, c'est... Mais après, au bout de ces 2 mois, lorsque je reviendrai, je compte prendre un peu de vacances, parce que ça, c'est un truc que je ne connais pas, les vacances.
Oui, hein?
Oui, il faudra que j'en prenne. Et puis après, donner priorité à ce projet d'écriture avec les enfants, d'écriture de poésie avec les enfants. Parce que les jeunes adorent la poésie,
Adore ça, vous saviez.
Oui.
Est-ce que votre formation comme enseignante vous aide aussi à transmettre?
Ah oui.
Parce qu'avec des jeunes, c'est différent qu'avec les adultes.
Oui.
Hein?
J'ai un contact magnifique avec les enfants. Et quand on leur fait comprendre... des fois, j'ai de la difficulté à faire comprendre aux enfants que leur imaginaire, c'est quelque chose, c'est un cadeau qu'ils peuvent l'utiliser.
Mm-hmm.
Parce que on a affaire à des générations de jeunes aujourd'hui, d'enfants, qui ont oublié ce que c'est que l'imaginaire.
Oui.
Qui sont perpétuellement devant une télévision qui les gave d'images.
Mm-hmm.
Et quand vous leur contez des histoires, c'est un autre rapport à la langue, c'est un autre rapport au rythme de la langue.
Oui.
C'est une manière de leur montrer qu'une langue peut être belle.
Oui.
Et quand ils écrivent, dans un premier temps, je les laisse écrire. Mm-hmm. Mais après, je leur dis cette même chose que vous dites de cette manière. Essayez de dire dans une langue qui a une musique.
Mm-hmm.
Et quand ils comprennent ce que c'est que la musique des langues, de la langue, ils vous écrivent des choses magnifiques. Alors, vous savez comment je suis devenue conteuse pour les enfants, c'est parce que quand ils ont mis deux de mes livres au programme, des écoles. Et lorsque j'allais dans une école, je trouvais que les enfants étaient tellement généreux, ils me donnaient tellement que je me sentais honteuse de partir en leur prenant tant. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais leur donner? Et je me suis mise à leur conter des histoires.
Mm-hmm.
Et c'était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver. Je suis devenue conteuse grâce à eux.
Ouais.
Alors, j'utilise les contes pour leur faire aimer la langue.
Oui,
vous voyez? Alors, c'est ce que je fais aussi dans la poésie.
Dans la poésie. Avec tout cela, Marie-Célie, on a fait le tour. Votre vie semble bien riche, en tout cas en réalisation professionnelle et tout. Avez-vous un rêve que vous auriez aimé réaliser soit professionnel ou personnel, quelque chose que vous dites, ça j'aurais aimé, où vous êtes comblée?
En général, je suis une personne qui vit beaucoup dans la gratitude.
Oui.
Pas simplement parce que je suis devenue écrivain, parce que ça aurait pu être n'importe quoi. Moi, je ne considère pas ce métier différent d'un autre, vous voyez, parce que je pense que pour moi, ce qui est important dans ma vie, c'est la réalisation de me sentir bien avec moi-même.
Ouais.
Et je crois que ça, on peut y parvenir, quel que soit ce qu'on fait dans la vie.
En effet.
D'être en adéquation avec soi-même, de se sentir une forme de liberté. Dans ce sens, l'écriture, c'est important pour moi, parce que pour moi, c'est mon espace de liberté.
Mm-hmm.
Et c'est dans la création qu'on trouve
dans
cet espace. J'aurais pu être peintre ou ailleurs, mais je pense que j'ai essayé de fuir tous les espaces où j'aurais peut-être besoin de quelqu'un ou d'autre chose, vous voyez, pour être libre, justement.
Oui.
Au fait, voilà, je ne pense pas qu'il y ait un rêve en particulier. Bon, le rêve d'être en santé,
d'être
peut-être.
D'être en santé,
voilà.
Tout à fait. Pour terminer, vous êtes une femme inspirante, vous inspirez. Une femme qui vous aurait inspirée?
Il y en a énormément, elles sont trop nombreuses. Il y a...
Dans l'écriture.
Il y a Nadine Gordimer, pour laquelle j'ai beaucoup de respect. C'est une femme qui a grandi en Afrique du Sud, une blanche sud-africaine qui a endossé la cause de la justice qui a toujours écrit contre le racisme en Afrique du Sud à une époque où c'était quelque chose d'absolument fabuleux.
Oui.
Vous voyez qu'elle puisse prendre la parole dans un espace d'une telle violence, vous voyez, pour les autres, parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays qui n'a pas hésité à tuer des gens, des Blancs,
oui.
qui parlaient au nom des Noirs, en qui effet. Parlaient contre le racisme. Mm-hmm. Alors, c'est quelqu'un que j'admire, l'œuvre et la personne.
Marie-Célie, ce fut un pur délice, là, cette entrevue avec vous. Puis, merci d'avoir répondu aussi généreusement à nos questions. Alors, nous vous souhaitons du succès, hein, une belle suite dans vos projets. Je rappelle que mes invités sont Marie-Célie Agnan, écrivaine québécoise d'origine haïtienne et poète officielle du Parlement canadien. Et en début d'émission, nous avons eu Marie-Madeleine Raoul, directrice des éditions de La Pleine Lune. Ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Alors ici Marjorie Théodore qui vous donne un autre rendez-vous la semaine prochaine.